Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi soir d'un week-end de Toussaint. Week-end où l'on célèbre d'abord les saints et puis les morts. Peut-être pourrions-nous en profiter pour parler d'eux ce soir. Tous ces gens que nous avons aimés et qui nous ont quittés, qui nous ont été retirés. Le deuil, vous le savez, est un long chemin de cicatrisation. Comment le vivez-vous? Qu'est-ce qui vous aide à tenir debout et à avancer? Savez-vous que pour la première fois, il va y avoir au mois de mars prochain à l'Université de Liège en Belgique un grand rassemblement de scientifiques de renom qui vont se réunir pour parler des connaissances actuelles de la vie après la mort. Des médecins, cardiologues, neurologues, directeurs de recherche, psychologues, infirmières spécialisées, hypnothérapeutes, pendant 2 jours, ils vont se pencher sur cette question passionnante. Et si la conscience pouvait exister sans le support des neurones? Et s'il pouvait se passer du corps physique? Et si elle pouvait continuer à exister sous une autre forme après la mort? Ce ne sont pas des hurluberlus, ni des fantastiques, des fanatiques, mais des scientifiques qui vont se pencher sur la question. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous invite à aller visiter le site du forum Le Deuil et les dimensions invisibles de la conscience. Vous trouverez ça à l'adresse suivante deuil-conscience.com. La mort, s'il y a bien un sujet qui nous concerne tous, c'est celui-là. Alors un sujet tellement difficile à aborder, mais que nous pouvons aborder entre nous ce soir en toute bienveillance, si vous le souhaitez, avec beaucoup de douceur. Appelez-moi au 3921 pour que nous échangions en toute sincérité sur cette épreuve que nous ne sommes jamais vraiment prêts à affronter. 3921 donc par téléphone. Hassan et Oscar vous attendent ce soir, eux aussi en toute bienveillance. Et je vous propose ce sujet-là, mais vous pouvez bien sûr appeler ce soir pour toute autre chose qui vous préoccupe et dont vous avez envie de me parler. Notez aussi que si vous voulez participer ou réagir par SMS, vous faites le 739-21 en commençant par le mot « nuit ». Enfin, notre mail, libreantenne@europe1.fr. À la réalisation ce soir, c'est Andreas Papadian. Et si tout le monde est prêt, on commence dans un tout petit instant.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Un opérateur mobile qui réserve ses meilleures offres uniquement aux nouveaux clients, c'est pas réglo. Mais un opérateur qui fait profiter à tous ses clients, même les anciens, de ses meilleures offres, ça c'est réglo. C'est réglo mobile. Normal, c'est l'opérateur mobile de chez Leclerc. En plus, le forfait appel SMS MMS illimité et 40 gigas est à 9,95€ par mois, sans engagement. Réglo, très très réglo, réglo mobile.
Leclerc, forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultable sur le site.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Et mon premier appel ce soir, c'est celui de Rosemary. Bonsoir à vous, Rosemary.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Alors, quelle est votre histoire de vie à vous? De vie et de mort, d'ailleurs, si je puis dire.
Mais mon histoire de vie et de mort, c'est le décès de ma fille, qui s'est passé il y a quand même assez longtemps, puisqu'il y a 50 ans de ça, donc elle était très petite. Et suite à ce décès, j'ai basculé dans l'horreur. Dans l'horreur, je ne pouvais plus vivre, donc chaque jour, je ne pouvais plus vivre normalement. Donc, si vous voulez, j'ai dû prendre des distances par rapport aux autres parce que je ne pouvais pas me confier ni à mon mari, ni à personne. Mon fils que j'avais avait 4 ans, donc je ne pouvais pas pleurer devant lui. Merci. Donc, j'ai toujours tenu tout pour moi. Mais ma fille, j'ai suivi sa vie par rapport à d'autres. Donc, je voyais quand il y avait tel événement qu'elle aurait dû faire, etc. Donc, toute sa vie comme ça.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette petite fille?
Ma petite fille est née, elle était hydrocéphale.
Ah, d'accord.
Donc, mais, oui, pas très très, mais enfin, elle a été opérée et tout. Elle était bien tout un moment, et puis on n'a plus su rien faire. Donc, non seulement je me suis révoltée, donc, ce qui lui était arrivé, et je n'ai pas pu accepter sa mort non plus. Et donc, je suis restée comme ça à descendre aux enfers, vraiment, parce que, par exemple, je ne pouvais pas aller voir une connaissance qui avait un nouveau-né, etc. Je ne pouvais pas avoir un nouveau-né, par exemple, ou un bébé, etc.
La douleur est tellement violente qu'on n'arrive pas à supporter que la vie continue normalement, quoi.
C'est ça. Ouais. Et donc, ça a duré pendant exactement 32 ans.
32
ans. Oui, parce que donc, ça a continué. Et un jour, mon autre fille, qui est née après, m'a annoncé lors d'un banquet, qui est très 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 heureux d'ailleurs, qu'elle était enceinte. Et là, je n'ai pas pu cacher mon problème par rapport à ça. Donc ma garde a baissé et je suis tombée je suis retombée dans mon passé. Mm-hmm. Donc, ma fille, c'était moi, si vous voulez. Mm-hmm. Et donc, ce fut horrible, horrible.
Oui. Les angoisses sont remontées.
Les angoisses sont remontées. Tout... C'est vraiment épouvantable à vivre. Et donc, ce soir-là, j'étais même paralysée des jambes. Je ne savais plus marcher physiquement. Donc, j'étais... donc ça s'est vraiment passé comme ça. Mm-hmm. Et donc, je me suis rendue compte alors que je ne pouvais plus rester comme ça, que je devais en parler à quelqu'un. Et donc, mais 30 ans après ça, et alors quelqu'un m'a renseigné, donc Madame Evelyne Joss, qui est hypnothérapeute, heureusement, tout à fait par hasard d'ailleurs. Donc je suis allée la voir, et donc elle m'a fait toute une série, donc elle m'a fait toute une série de séances. Et vraiment, ça a été miraculeux. Hein. Vraiment, c'est le mot. C'est comme si de tomber, quelqu'un tout d'un coup m'avait arrêté. Arrêté. Et donc, l'hypnothérapie, c'est merveilleux. Et on ne sait pas expliquer ça. Alors, on ne sait pas expliquer.
Il se trouve que je connais Evelyne Joss et je sais de qui vous parlez. C'est quelqu'un quand même d'exceptionnel.
Oui, exceptionnel.
Qui est psychologue, qui est aussi spécialiste des grands traumatismes. Et qui est en plus hypnothérapeute et spécialiste aussi des relations avec l'au-delà.
Oui.
Et alors, comment se sont passées vos séances? Quelles ont été les grandes étapes importantes pour vous?
Mais je ne sais pas vous dire les grandes étapes importantes. Parce que ce sont des histoires... comment vais-je dire? Ce sont des histoires... On s'identifie à certaines choses en ce qu'elles racontent, etc. Mmh. Et donc, moi, ce sont toutes ces séances-là qui m'ont sorti. Mais la dernière séance, c'est cette séance-là qui était exceptionnelle. La rencontre avec ma fille. Et ça, c'est incroyable. Incroyable. Je ne l'ai pas vue. Je l'ai sentie. Elle était là. Oui. Elle était là. Parce que j'avais toujours des douleurs au sternum, comme ça, quand j'avais des problèmes. Et donc, ce jour-là, ce fut vraiment la fermeture de cette blessure physique en moi. Et voilà. Et maintenant, je peux en parler sereinement. Sereinement. Mais pour moi, expliquer l'hypnothérapie à quelqu'un, c'est vraiment très compliqué. Parce que j'ai déjà essayé d'aider d'autres personnes en envoyant donc chez Madame Joss ou chez quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais je ne sais pas expliquer le phénomène à quelqu'un. Il faut vraiment vivre, parce que cette hypnothérapie-là, c'est dans le cadre de la mort d'un fils. On peut vraiment aussi faire de l'hypnose en clinique, etc. Mais c'est vraiment ici quelque chose
C'est très particulier.
Incroyable.
Mais le travail que fait Evelyne Joss est remarquable, mais il est très particulier. C'est vrai que la majorité des hypnothérapeutes ne font pas ça. Elle va beaucoup plus loin en fait que ça.
Voilà, c'est ça.
Elle va bien plus loin qu'une hypnose classique.
Voilà.
Et elle permet effectivement à ceux qui le souhaitent ce genre d'émotions, ce genre de rencontres, ce genre d'étapes qui changent une vie, quoi, vraiment. Hein. C'est ça que vous me dites.
Oui, c'est vraiment... Parce que si je raconte quelque chose, ce phénomène à quelqu'un, il va dire oui, mais c'est pas possible. Vous savez, les gens ne sont pas préparés à ça.
Alors justement, comment l'ont vécu vos proches qui vous ont vu? Et là, ils avaient la preuve vivante que ça allait de mieux en mieux. Comment est-ce qu'ils ont
réagi? Ben oui, donc mon mari, qui est ici présent, me disait voilà, que j'aurais complètement changé. Parce que j'étais fermée à tout le monde. Je réagissais parfois mal par rapport à certaines choses que les gens ne comprenaient pas. C'est ça, en fait. Et donc, mon mari a dit, c'est incroyable, comme j'avais changé en tout. Alors, j'étais redevenue moi-même, si vous voulez.
Quand vous parlez de cette rencontre, et que ce soit par le biais d'une hypnose spirituelle ou par d'autres biais, il y a beaucoup de gens qui vivent ces rencontres avec leurs défunts. 50 ans après, vous l'avez perçue comment, votre fille? Est-ce que c'était un enfant ou une adulte, dans votre perception de cette relation-là?
Mais quand... Ça, c'est difficile à répondre. Quand j'y pense, évidemment, j'y pense parce qu'elle était petite. Mais actuellement, quand j'y pense, hein, quand j'y pense ou quand je vais au cimetière très souvent, mm-hmm. mais quand je vais au cimetière, c'est pas pour pleurer, hein, c'est pour aller lui rendre visite, mm-hmm. eh bien, je la vois comme une adulte, comme quelqu'un en pleine forme, qui rayonne. Je la vois comme ça maintenant. Et je crois qu'elle est comme ça maintenant. Je crois. Personnellement, je ressens ça comme ça.
Ouais. Aujourd'hui, vous êtes non seulement dans l'acceptation, mais dans l'apaisement complet quand on vous entend.
Oui, c'est serein. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment... Une chose que j'ai gardée et que ça, je ne pourrais pas changer, donc j'ai tellement pleuré seule parfois, etc., pendant toutes ces années, hein, qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ne sais plus verser une seule larme. C'est impossible. Physiquement, c'est plus possible. Et donc, parce qu'avec mon petit garçon de 4 ans, qui a vécu ça malheureusement, terriblement fort aussi, hein, de voir sa sœur comme
bien
ça.
Bien sûr, et sa maman aussi en vrac.
Et oui, c'est ouais. ça. Mais donc j'évitais de pleurer devant lui, de me plaindre devant, enfin de me plaindre, de dire ce que je ressentais. Ouais. Et donc j'ai pris l'habitude de faire ça pendant toutes ces années, en gardant tout ça pour moi jusqu'au jour où ma fille m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et ce fut vraiment une catastrophe. Et pour moi et pour elle, parce qu'elle n'a pas compris.
Alors justement, c'est ce que j'allais y revenir. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que j'imagine qu'effectivement, pour elle, elle vous annonce la meilleure nouvelle du monde et vous vous écroulez. Comment est-ce que ça s'est passé entre vous à ce moment-là?
Mais entre nous, ben, c'est-à-dire que cette soirée-là, ça fait une catastrophe.
Hein. Et, oui.
Et donc, j'en ai jamais parlé avec ma fille, parce que ma fille est vraiment terriblement sensible par rapport à moi. Terriblement attentionnée. Mmh. Et donc, je n'ai jamais... Par exemple, je ne lui ai pas demandé pardon pour ça. Parce que je trouvais que c'était pas possible de demander pardon alors qu'elle avait la peine. Mais plus tard, quand elle aurait son enfant, qu'elle comprendrait. Et donc, elle ne m'a jamais voulu pour ça. Et j'en ai jamais... J'en parle parfois de... Quand je faisais des séances, etc. Mais elle n'a jamais relevé la parole là-dessus. Elle ne m'a jamais dit « Maman, tu m'as fait de la peine. » Jamais, jamais, jamais. C'est vraiment... Jamais, je n'ai jamais parlé avec elle de ça, de ce qu'elle avait ressenti à ce moment-là, etc. Mmh. Jamais. Donc, voilà.
Et cette expérience de rencontre, si on peut appeler ça comme ça, avec votre fille, est-ce que vous en parlez facilement à tout le monde autour de vous? Ou est-ce que ça reste encore un sujet tabou?
Non, ce n'est pas un sujet tabou.
Non.
C'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que les gens doivent savoir, par exemple, mon vécu. Et voilà... Je trouve qu'on doit savoir, qu'il est possible de faire pour ça. Parce que je trouve que le deuil, ce deuil-ci, je ne suis pas la seule à avoir perdu un enfant, bien entendu. Le deuil d'enfant, ça n'a rien à voir avec le deuil d'autres choses, d'autres personnes, des parents, etc. Les parents meurent, c'est normal.
Ça va à l'encontre du sens de la vie. Hein.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, c'est ça que je ne pouvais pas mettre, et encore maintenant... le raisonnement que je fais quand je vois des très très vieilles personnes, je me dis mais ça sert à quoi alors qu'il y a des enfants qui meurent tous les jours, des jeunes.
Et vous avez remarqué d'ailleurs qu'il n'y a pas de nom pour une maman qui a perdu son enfant.
Ah bon?
Ben non, on dit d'une femme qu'elle est veuve, d'un homme qu'il est veuf, d'un enfant qu'il est orphelin.
Voilà, c'est ça.
Mais il n'y a pas de nom pour une maman ou un papa qui a perdu son enfant.
Et alors ce qui est terrible aussi, c'est que donc moi j'en parle il y a donc 50 ans que ça s'est passé. Et donc, j'ai vu Mme Joss la première fois en 2001, quand ça s'est passé, avec mon autre fille. Et donc, il y a 18 ans de ça, de mon premier soin avec Mme Joss. Mais donc, aujourd'hui, je peux parler de ça normalement, tranquillement. Mais ce qu'il y a dans le deuil aussi, ou dans les deuils, les gens croient que le temps des choses. Donc, vous ne savez jamais parler vraiment avec quelqu'un autant d'années après. Je dis, tiens, mais comment ça se fait? Le temps est passé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être qu'avec des adultes ou les parents, oui, bien entendu, parce que c'est la normale. Mais avec des enfants, c'est toujours présent, quoi. C'est toujours... le temps, ça n'arrange rien. Le temps n'arrange rien. Il faut une thérapie. Il faut une thérapie. Sinon, c'est pas possible. Ou il y a peut-être d'autres personnes qui ont d'autres... Je ne sais pas, d'autres façons d'en sortir.
D'autres chemins, mais celui-là en est un, bien sûr. Mais voilà. Dites-moi, pour revenir à ces séances d'hypnose, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais à quel moment vous faites la différence entre l'hypnose qui vous fait travailler l'imaginaire et la sensation qu'il y a vraiment une rencontre avec votre fille?
Mais la rencontre avec ma fille, c'était la dernière séance. Donc, c'était pas imaginaire du tout, hein, parce que c'était physique aussi. Physique. Mmh. Donc, au moment où j'ai l'impression, j'étais certaine qu'elle était là pour m'aider à refermer cette plaie que j'avais physiquement, hein. Physiquement, hein, dans le sternum. Hein. C'était terrible. Quand je pensais à ça, toutes ces années, j'avais l'impression que, je ne vais pas dire que c'était près de l'infarct, mais c'était un machin comme ça, quoi. Et donc, la dernière séance, c'était ça, comme si c'était refermé physiquement, voilà. Mais je sais que vous me comprenez, probablement.
Bien sûr.
Mais si je vais raconter ça à quelqu'un d'autre, il va dire, mais c'est pas possible. Et donc, c'est ça que pour moi, c'est très difficile de convaincre les gens d'aller rencontrer une hypnothérapeute. Et comme vous dites, Madame Joss, elle est vraiment exceptionnelle.
Mais vous savez, oui, ça c'est sûr. Et j'en profite pour la saluer si jamais elle nous écoute. Mais en dehors de l'hypnose, qui est bien sûr un outil extraordinaire, il y a beaucoup de gens qui vivent aussi des expériences comme ça d'autres manières. Vous avez suivi, j'imagine, les travaux du docteur Jean-Jacques Charbonnier ?
Non.
Non, ça ne vous dit rien, Jean-Jacques Charbonnier ?
Non, ça ne me dit rien.
Mais qui a écrit beaucoup de livres aussi sur la mort après, la vie après la mort ? Et beaucoup,
non,
de gens, beaucoup de gens font cette expérience-là, même en dehors d'une thérapie sous hypnose. Ils arrivent à avoir un contact. Mais quelquefois, oui, c'est difficile d'en parler parce que les gens me disent on va me prendre pour une folle si j'en parle.
Mais voilà, hein, pas tout à fait.
Ça, c'est le gros point.
Mais il faut un guide pour ça. Hein. Parce que j'ai eu d'autres signes aussi, mais par rapport à d'autres personnes, ça, après la mort. Mais ici, en fait, je ne parvenais pas à dire ma fille, où est-elle, quelque part. Hein, parce qu'un adulte, vous dites, elle est peut-être plus dans une autre dimension, etc. Mais ici, ma fille, pas. Je crois que je ne savais pas la lâcher. Et donc, c'était terrible. Je me disais, mais où est-elle, etc. Donc, c'était quotidien, ça. Hein.
Où elle va, où elle va sans moi, quoi, c'est ça.
Oui. Et donc, voilà. Et alors, je me pose parfois la question aussi, parce que moi, j'ai soigné ma fille nuit et jour. Je n'ai pas su faire plus que j'ai fait. Mais qu'arrive-t-il à des parents qui ont, par exemple, des rapes d'enfants, etc., qu'on ne retrouve pas ? Est-ce qu'on peut vraiment, les soigner, même par l'hypnose, ces gens-là ? Parce qu'ils auront toujours un doute de ce qui est arrivé à leur enfant. Moi, je le sais. Et je me dis, par rapport à ces gens-là qui ont perdu leur enfant dans de telles conditions, je vais dire que j'ai encore, entre guillemets, la chance de l'avoir soignée, de l'avoir pu faire quelque chose pour elle. Par rapport à ces parents-là, est-ce que vous croyez que c'est possible ?
Ça me paraît difficile parce qu'effectivement, tant qu'il y a un espoir, d'ailleurs ces parents-là le disent eux-mêmes, c'est un deuil impossible à faire.
Voilà, c'est ça.
On ne peut pas traverser la phase de l'acceptation qui est la première étape du deuil. Si on n'accepte pas de la reconstruction, la première étape pour se reconstruire, c'est d'accepter.
Oui.
Et ces gens-là ne peuvent pas accepter puisqu'il y a, on ne sait pas, il y a toujours un doute, quoi.
Mais oui, c'est ça. Donc je me dis, je pense souvent à ça quand je vois des articles dans le journal, etc. Je me dis, mais comment peut-on sortir de ça ? C'est pas possible. Et donc moi, j'ai pu sortir de ça parce que j'avais fait ce qu'il fallait, etc. Oui. Que je savais où elle était, etc. Et donc, et grâce à cette hypnothérapie aussi, il y a exactement 6 ans que ma fille était enterrée ici où j'habite, à Meubles, hein, et je voulais la transférer, enfin, j'aurais voulu qu'elle soit ailleurs, dans un autre cimetière à 3 km ici. Et donc, j'ai pu demander qu'on la déterre du caveau où elle était, voir son cercueil, l'accompagner jusqu'à l'autre cimetière. Et là, donc, il l'a enterrée là, dans un autre caveau.
Oui, mais c'est ça ce que vous expliquez, Rosemary.
Donc j'ai pu le faire.
Quand le deuil est fait, tout est apaisé, tout est serein, en fait.
Oui, mais donc c'était serein, quoi. Donc j'ai pu le faire, sinon j'aurais jamais pu faire ça. Donc c'est vraiment, si on pouvait, enfin, on pouvait comprendre ce que cette thérapie apporte aux gens, c'est fantastique pour moi. C'est fantastique et voilà.
Mais dites-moi, avant de vous tourner vers cette thérapie-là, pendant ces 30 ans de souffrance, vous ne vous êtes pas fait aider ?
Rien du tout. Oui, mais attendez, c'était en 1969, ça. Hein,
oui, c'est vrai.
Et on n'était pas aidé par des psychologues comme maintenant. Hein. Parce que maintenant, si ça arrive, il y a des psychologues dans les cliniques, ou je ne sais pas moi, on est suivi. Mais à l'époque, pas. Ce n'était pas courant. Et puis, j'ai cru aussi que c'était naturel d'être dans cet état-là. J'avais perdu ma fille, donc je devais être malheureuse, si vous voulez.
Oui, donc la vie s'arrête, quoi.
La vie s'arrête, oui. Alors que j'avais mon autre fils et j'avais quand même une vie autour de moi. Mais finalement, avec la vie autour de moi, j'étais très, très, très seule. Très seule. Voilà.
Parce que, de ce que je comprends de votre histoire, vous vous êtes aussi enfermée beaucoup pour vous protéger.
Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais. Hein. Donc, au moment où ma fille m'a annoncé ça, je ne m'y attendais pas. Donc, je me suis pas méfiée de moi-même, si vous voulez. Donc, voilà.
Et là, la bulle a explosé.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'était horrible.
Et en même temps, heureusement.
Mais oui. Ah oui. Mais tout à fait. Mais je ne crois que rien n'arrive jamais par hasard, parce que j'ai eu d'autres expériences aussi, d'autres choses. Et je crois que la personne qui m'a conseillé de voir Madame Josse, je n'étais pas là par hasard non plus. Voilà. Et donc, elle m'a dit, voilà, tu dois aller voir cette personne-là. parce que j'avais pris rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Et on m'a dit, écoute, ne fais pas ça, va voir quelqu'un pour l'hypnothérapie. Voilà. Et ça s'est passé comme ça, aussi simplement que ça.
Mais souvent, effectivement, on est orienté vers la bonne personne au bon moment et ce n'est pas un hasard.
Mais oui, ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et voilà. Et encore aujourd'hui, quand j'en parle, je sens ça intensément, hein, parce que c'est vraiment... Et ces séances, c'est vraiment... Chaque fois que je suis sortie des séances d'hypnose, c'était vraiment de l'amour et du bonheur que je ressentais. Comme ça, vraiment, dans l'absolu, si vous voulez, dans l'absolu. Chaque fois que je suis sortie de ces séances-là, c'est vraiment... Voilà.
Je sais de quoi vous parlez. Mais en dehors de ça, le premier message important quand même à entendre ce soir, c'est que c'est important de se faire aider, quelle que soit la thérapie qu'on choisit. Il ne faut pas rester dans cette bulle de souffrance. Et non, ce n'est pas normal de souffrir toute sa vie.
Mais non.
On n'est pas là pour ça. On n'est pas sur cette terre pour souffrir tout le temps, tout le temps.
Mais
tout
non, tout mais temps. Tout à fait. Et donc, maintenant, quand je pense à la mort en général...
Oui, alors justement, donc, je voulais y venir aussi.
Dites-moi. Très, 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 très différent. Quand je parle à la mort, c'est serein. Et pour moi, ça, l'esprit continue, etc. Donc, c'est pas. Ça m'a aidé dans autre chose. Ça m'a ouvert l'esprit, si vous voulez.
Mais oui. Et alors, justement, est-ce que quand ça vous arrive d'en parler, vous avez des gens qui, du coup, disent bah, écoute, j'osais pas le dire, mais moi aussi, j'ai vécu quelque chose, que ce soit sous hypnose ou hors hypnose. Est-ce que, du coup, ça délie un petit peu les confidences autour de vous?
Non, jamais.
Non.
Jamais, parce que quand j'en parle, c'est plutôt le scepticisme. Et donc, j'ai essayé d'en parler à d'autres personnes. Enfin, j'en ai parlé à d'autres personnes de ce qui m'était arrivé, donc en hypnose. Eh bien, les gens sont dubitatifs. Et donc, je crois aussi, parce que moi, de l'hypnose, qu'est-ce que je connaissais, hein, c'était l'hypnose genre Mesmer, par exemple.
Le spectacle, oui, qui n'a rien à voir.
Le spectacle. Et donc, je crois que les gens ont été mal orientés par rapport à ça.
Souvent, il y a des croyances, oui, tout à fait. Il y a des croyances et des peurs qui sont totalement infondées.
Et donc, peut-être que maintenant, c'est différent parce qu'on en a parlé à la radio, il y a eu des émissions, etc., notamment sur l'hypnose en salle d'opération, mais c'est encore autre chose, ça. Et donc, je crois peut-être que là-dedans, ça évolue. Mais sinon, moi, c'est ce que je croyais. Mais quand on m'a conseillé, cette personne m'a conseillé donc, d'aller voir Mme Joss pour l'hypnose, j'avais plus rien à perdre, si vous voulez. Donc, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, je me suis entièrement donnée là-dedans. Et ça fut vraiment merveilleux.
En même temps, là, il y a deux sortes d'hypnose. Il y a une hypnose classique pour un travail de deuil. Et puis, vous êtes allée aussi bien plus loin avec ce qu'on appelle l'hypnose spirituelle, qui est encore une autre forme d'hypnose.
Oui.
Qui n'est pas quelque chose de courant non plus.
Non.
Mais c'est important aussi de comprendre que voilà, c'est pas, la majorité des séances d'hypnose n'ont rien à voir avec ça non plus.
Non.
C'est vrai que ce travail-là est un travail particulier qu'on effectue quand il y a une violente souffrance liée à un deuil.
Oui.
On permet cette connexion-là.
Oui. Ah. Oui, mais c'est terriblement difficile parce que si je devais expliquer à quelqu'un, j'ai souvent parlé de mes séances d'hypnose à quelqu'un en disant, voilà, ça c'est de suite donc, quelqu'un qui connaissait mon malheur et donc j'ai expliqué pourquoi j'en étais sortie. Eh bien, c'est très, très compliqué à expliquer à quelqu'un.
Alors depuis ça, vous n'en faites plus les séances, maintenant vous n'en avez plus besoin?
Non.
Comment est-ce que vous établissez un contact, si je puis dire, avec votre enfant, votre fille?
Mais je n'établis pas de contact avec ma fille. Ma fille est là. Elle est là. Et quand j'imagine comment elle serait là où elle est, c'est quelqu'un qui rayonne. Qui rayonne. Voilà. Je sais expliquer ça comme ça.
Et c'est elle qui éclaire votre chemin aujourd'hui, alors?
Oui. Quand j'y pense, c'est comme ça. Quand j'y pense, j'éprouve du bonheur, de la joie. Alors que, parce que je l'ai vu souffrir aussi, c'est ça qui me révoltait. Hein. Donc voilà, mais aujourd'hui, je peux parler de ça sereinement. C'est l'hypnose, c'est merveilleux pour moi, merveilleux. Voilà.
Et votre mari qui n'est pas passé par cette thérapie-là, comment il va lui aujourd'hui?
Ben, mon mari, disons qu'il a su faire face à ça, mais quand on en parle, il pleure de ma fille. Hein. Ah. Donc lui n'a pas fait de l'hypnose parce qu'il a su gérer ça entre guillemets, si vous voulez. Mais quand on en parle, c'est très très dur pour lui. Voilà.
Il n'a pas eu envie de suivre le même chemin ?
Ben, je ne sais pas. Est-ce que tu aurais envie de... Non, je ne crois pas. Il a un caractère, disons, plus terre-à-terre, pour dire, voilà, je mets ça de côté pour l'instant, etc. Mais sinon, lui, non, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il ferait de l'hypnose. Je ne pense pas. Parce qu'il sait gérer. C'est quelqu'un qui gère très bien les choses, donc. Voilà. Et donc, par rapport à ça aussi, ce qui m'a laissé de vivre ça pendant 30 ans sans rien dire aux autres, ou très peu, c'est le fait que mon fils était petit. Et donc, mon premier enfant était petit, et donc je ne voulais pas pleurer devant lui, etc. Je ne voulais pas m'extérioriser, etc. C'était ça aussi, voyez-vous.
Bien sûr.
Et donc, ce fut pas facile.
Et comment il va, lui, par rapport à ce deuil aussi ?
Mon fils ?
Oui.
Mais ce fut terrible aussi pour lui. Ce fut terrible aussi pour lui. Et encore maintenant, quand on en parle, ça reste quand même très douloureux. Mais le fait d'avoir déterré ma fille, parce que mes enfants étaient là, hein, ma fille et mon fils, ici, il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, qu'on l'a fait déterrer pour la mettre dans un autre cimetière, il m'a dit que ça lui avait fait du bien de la voir là comme ça, dans son cercueil. Mmh. Et mon autre fille, évidemment, elle n'a pas vécu ça. Mais enfin, voilà. Donc c'était très douloureux, évidemment, tout ça. Je ne suis pas la seule dans cet état-là. Mais si quelqu'un peut se faire soigner comme ça par hypnose, alors il ne doit pas hésiter. Il ne doit pas hésiter. C'est vraiment merveilleux. Et Madame Joss est merveilleuse. Ça, je ne sais dire que ça. C'est quelqu'un de talentueux. Enfin, je ne suis pas la seule à le dire, d'ailleurs. C'est vraiment talentueux. Je ne sais pas. Je ne sais pas si toutes les séances hypnose sont comme ça, ou se pratiquent comme ça, je ne sais pas.
C'est un peu particulier. Là, on parle d'hypnose spirituelle. C'est un peu particulier. Moi, ce que j'aimerais retenir de votre message, surtout, c'est que tous les gens qui ont